le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies et puis les titres. Mise en place d'une stratégie opérationnelle conjointe MONUSCO Police Nationale Congolaise pour sécuriser la population de Beni au Nord Kivu. Et déjà les résultats sont visibles, 200 suspects aux arrêts. Le sujet est revenu lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Pendant ce temps, les FDLR expriment clairement leur intention de se délocaliser du Nord Kivu à Kisangani. Les détails dans un instant. Quelle est à ce jour la contribution du programme alimentaire mondial dans la lutte contre Ebola dans la province de l'Équateur? Le chargé de communication de cette agence des Nations Unies est l'invité de notre magazine. Il répondra à cette question et à bien d'autres encore dans cette édition. Et puis nous évoquerons aussi la justice des mineurs en RDC avec à la clé le concept « enfants en conflit avec la loi ». Le sujet a fait l'objet d'un séminaire organisé sous les auspices de l'UNICEF et de l'ONG Défense des enfants en Belgique la semaine dernière. Un expert de cette ONG nous en dira plus dans la rubrique « Décryptage ». Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bon dimanche chez vous. Notre actualité de la semaine, c'est l'arrestation de 200 suspects, dont certains membres de la rébellion ougandaise de l'ADF depuis la semaine dernière à Beni. C'est le résultat des actions menées conjointement par la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise dans cette île. Le porte-parole intérimaire de la MONUSCO l'a annoncé mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Par ailleurs, la mission de l'ONU affirme avoir reçu une lettre des rebelles Hutus, rwandais des FDLR, dans le cadre de leur processus de rédition. Le point avec Jean-Pierre et Lali Coco.
Depuis début octobre, le territoire de Beni dans le Nord Kivu est la cible d'attaques répétées d'individus armés. Par arme à feu ou à la machette, les populations sont massacrées dans les quartiers périphériques de cette ville et dans les villages environnants. Et selon la société civile locale, du 2 octobre au 2 novembre, ces assassinats ont fait environ 120 morts et entraîné le déplacement massif d'au moins 10 000 ménages. Et par plus tard que mardi dernier, entre 7 et 11 personnes ont été encore tuées à Beni, selon toujours la société civile locale. Pour pallier cette situation, la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise PNC ont mis en place une stratégie sécuritaire opérationnelle. Et les résultats sont là. Charles-Antoine Bambara, porte-parole intérimaire de la MONUSCO.
La police de la MONUSCO a mis en place conjointement avec la police nationale congolaise une stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Beni qui a permis l'arrestation de 200 suspects dont des membres du groupe armé ADF et la saisie des armes et munitions de guerre, de bombes, de radio Motorola et de nombreux effets militaires.
Sécuriser la population de Beni et du Nord Kivu, la MONUSCO en fait une priorité traduite ici par la détermination et l'engagement du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations dans l'Est, général Abdallah Wafi.
Je voudrais, avant de conclure, réassurer les populations de Beni, les populations du Nord Kivu, que nous demeurons engagés. Nous allons accroître l'ensemble de nos dispositions, ressources militaires, civiles, policières, gendarmes et tout pour pouvoir continuer à sécuriser.
Sur le chapitre des redditions des FDLR, le général Wafi dit avoir reçu une lettre des rebelles Hutu-Rwandais.
Nous venons d'avoir une lettre que les FDLR ont adressée à un certain nombre de personnalités, y compris à la MONUSCO, pour dire que enfin ils acceptent d'aller à Kisangani pour faire une reconnaissance du camp où ils vont être cantonnés. Alors, naturellement, nous allons tout de suite soutenir cela pour les amener. Et si ils prenaient effectivement la décision de partir à Kisangani, nous considérons que ce serait un pas positif vers le processus qui serait désormais relancé.
Autre actualité, Kinshasa a abrité cette semaine la 5e journée africaine pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En dehors de la commission de l'Union africaine et du gouvernement congolais, des agences onusiennes telles l'UNICEF, la FAO et l'OMS ont participé à l'organisation de ce forum. Comment l'ONU dit, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, peut-elle aider le pays à améliorer sa sécurité alimentaire et nutritionnelle? Honoré Messenga Kalala a posé la question à Philippe Francilon, il est conseiller technique à l'ONUDI RDC. Suivez sa réponse.
L'ONUDI peut jouer un rôle important par un savoir-faire sur la conservation des aliments une fois transformés. C'est-à-dire qu'un des problèmes, c'est que les récoltes, parfois, soit n'arrivent pas à s'exporter parce que les conditions d'évacuation de l'exploitation familiale sont difficiles. Et l'ONUDI peut apporter un savoir-faire sur des techniques de base, de transformation des produits et aussi de conservation. Au Congo, nous sommes impliqués dans la transformation du manioc, dans la transformation des fruits, et très prochainement, avec le concours de la Banque mondiale, nous accompagnons le gouvernement congolais dans le développement des pôles de développement de croissance de l'Ouest.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Pour le décryptage de ce magazine, nous revenons encore sur la justice des mineurs en RDC pour évoquer le concept enfants en conflit avec la loi. Le sujet avait fait l'objet la semaine dernière d'un séminaire de travail et de formation, une rencontre réunissant des juges, des avocats, des assistants sociaux et des éducateurs impliqués dans les procédures de la justice pour enfants. Objectif, les sensibiliser à l'existence et l'importance des mesures non privatives de liberté en faveur des enfants en conflit avec la loi. Monsieur Benoît Van Kersbilk, président de l'ONG Défense des enfants de Belgique, était le formateur principal de ce séminaire co-organisé avec l'UNICEF. Il répond aux questions d'Honoré Singakala.
Monsieur Benoît, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Benoît, qu'est-ce qu'un enfant en conflit avec la loi ?
On parle d'un enfant en conflit avec la loi, c'est quand un enfant n'a pas respecté les obligations, les règles de vie en société, qu'il a commis un délit, qu'il a fait des bêtises. C'est dans ce cas-là qu'on parle d'un enfant en conflit avec la loi.
Pour vous, l'administration de la justice pour enfants devrait répondre aux standards internationaux. Quels sont ces standards ?
Alors, il y en a beaucoup. D'abord, le premier standard, c'est le fait que quand un enfant commet des bêtises, il ne faut pas le traiter comme un adulte et le punir et l'envoyer en prison, mais beaucoup plus envisager des mesures socio-éducatives, le réhabiliter, lui fournir une aide éducative pour en faire en sorte qu'il comprenne qu'il a commis des bêtises et qu'il ne faut pas en commettre, et lui donner des perspectives de réinsertion dans la société. Sinon, on risque de les mettre à l'écart de la société, avec pour conséquence aussi que si on prend des mesures punitives contre eux, eh bien, on sait qu'ils vont récidiver de manière plus importante.
Vous avez aussi souligné que le milieu par excellence pour l'enfant, c'est sa famille.
Oui, ça, je pense que c'est pas en Afrique que je dois dire ça, que c'est vraiment fondamental que la famille, c'est le premier pilier, le premier endroit où un enfant peut être élevé, peut être protégé, peut être entouré et soutenu. Mais on doit constater que dans certains cas, la famille est défaillante. Il y a des familles qui ne sont pas capables de pouvoir remplir leurs obligations, qui sont séparées. Il y a des enfants qui sont orphelins, qui n'ont plus de famille. Et donc ces enfants-là, qui n'ont plus de famille, courent des risques plus importants face à leur insertion dans la société et ont besoin d'une protection et d'une aide beaucoup plus importante. Alors,
oui, il y a des familles défaillantes parce que démunies. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce que la société devrait faire pour la famille, en fait ?
Alors, les défis sont gigantesques et on est tous d'accord pour le reconnaître. Le fait pour une famille d'être démunie, de ne pas avoir les moyens de pouvoir remplir leurs obligations, est une préoccupation très très importante. Alors, je pense que d'abord et avant tout, lutter contre la pauvreté, favoriser l'accès à la scolarité. La scolarité est un bon moyen de pouvoir donner des perspectives aux enfants parce que, alors, ils ont des connaissances, ils ont un diplôme, et ils ont des possibilités de pouvoir gagner leur vie par la suite. Le soutien aux familles, développer un système d'allocation familiale me paraît aussi très très important. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une perspective vraiment importante. Des mesures comme ça qui vont progressivement lutter contre la précarité des familles me paraissent fondamentales.
Le policier fait partie des acteurs importants dans la justice pour enfants. Comment devrait-il se comporter face à un enfant en conflit avec la loi ?
Mais d'abord, se rendre compte qu'il a affaire à un enfant et pas un adulte, qu'un enfant doit encore être éduqué. Si un enfant a fait des bêtises, il doit apprendre que ce qu'il a fait n'était pas permis. Peut-être qu'il ne le savait pas suffisamment avant. Et donc la police doit être d'abord dans un rôle de perspective éducative et de respect de l'enfant. Ce n'est pas en le maltraitant, ce n'est pas en l'enfermant qu'on va lui faire comprendre qu'il a pris le chemin de traverse dans la société. C'est beaucoup plus en le respectant, en l'éduquant, en lui donnant des perspectives. C'est pas facile, mais on demande effectivement à la police, comme premier acteur de l'intervention de la justice, d'être respectueux par rapport à l'enfant. On ne peut pas attendre qu'un enfant soit respectueux par rapport à la société si la société n'est pas respectueuse par rapport à l'enfant.
Vous avez un mot à dire par rapport à la détention préventive ?
Mais la détention préventive, mondialement, elle est utilisée de manière trop importante. Il faut se souvenir qu'un enfant qui est en détention préventive, il n'a pas encore été jugé, il n'a pas été condamné, on n'a pas encore la preuve qu'il a commis un délit. Donc on l'enferme, on le prive de liberté, on le prive d'un de ses droits fondamentaux, alors qu'on n'est pas encore certain qu'il a vraiment commis ce délit. Beaucoup de violations des droits de l'enfant se passent pendant la détention préventive. De la violence, pas de droit à la santé, à la sécurité, à une nourriture convenable, à l'éducation, à l'hygiène, etc. Et donc, se dire que pendant un moment où un enfant est pris en charge par l'État, l'État lui-même n'est pas capable de respecter ses droits, c'est quelque chose d'assez inquiétant.
D'une manière générale, quel devrait être l'objectif de la justice pour enfants?
C'est clairement un objectif de réhabilitation et de rééducation. La justice intervient quand tous les autres mécanismes sociaux, familiaux n'ont pas fonctionné. Donc il faut d'abord évidemment renforcer tous ces mécanismes-là. Et puis la justice, elle intervient en dernier, en bout de course, pour un nombre limité d'enfants pour lesquels il faut une intervention plus importante. Et pour ces enfants-là, il faut vraiment du personnel spécialisé qui est capable de pouvoir remplir une mission à visée éducative, et c'est peut-être le travail le plus difficile à réaliser. Donc il faut reconnaître que la justice fait face à des défis très très importants et à des missions qui sont considérables, mais on peut attendre effectivement d'elle qu'elle remplisse ses missions avec une approche qui est sensible à la situation des enfants.
Alors par rapport à cette problématique, vous avez un message particulier aux autorités congolaises?
D'abord de leur souhaiter beaucoup de courage, parce que la tâche est très lourde, certainement de faire preuve d'une volonté politique d'améliorer la situation dans le sens de ce que les normes internationales nous demandent, de lutter dans toute la mesure du possible contre la privation de liberté, et surtout dans des lieux où on sait que les enfants ne sont pas bien traités, et malheureusement c'est le cas aujourd'hui. Et donc si il pouvait y avoir un plan d'action, des priorités et un engagement concret des politiques en vue d'améliorer la situation, ça ferait mon bonheur.
Merci beaucoup, monsieur Lenoir.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Et dans l'actualité en bref, environ 1800 personnes de Biangama ont bénéficié d'une assistance en vivres et non-vivres du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Nous sommes là en territoire de Shabunda, dans le sud Kivu. Il s'agit de déplacer, retourner dans leur milieu d'origine. Selon le responsable provincial du CICR, des actions semblables ont été réalisées en faveur d'autres retournés et déplacés dans différentes contrées de la province. Les volontaires des Nations Unies en RDC ont organisé du 4 au 8 novembre 2014 une formation en gestion des projets et de mobilisation des ressources pour 10 représentants d'associations de la société civile de Goma. Une formation a intégré un programme plus large de renforcement des capacités et d'accompagnement de la société civile reposant sur le partenariat entre les 10 associations et 10 volontaires des Nations Unies en vue de la réalisation ultérieure d'un projet de développement.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
102 tonnes d'aide alimentaire sur les 287 attendues en faveur de 6000 personnes dans la zone de Boindé. La gestion quotidienne du carburant et la location des tracteurs pour les acheminer à des endroits difficiles d'accès, des vols aériens réguliers transportant du personnel et de la logistique. Voilà en substance la contribution du programme alimentaire mondial, le PAM, dans la lutte contre la fièvre hémorragique à Ebola qui frappe la localité de Lokolia dans la province de l'Équateur. Le chargé de communication de cette agence des Nations Unies est notre invité ce dimanche. Il évoque notamment la bonne coordination du mécanisme de réponse piloté par le gouvernement ainsi que l'implication de tous les partenaires dans la bataille contre Ebola. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Claude Kalinga, bonjour.
Bonjour.
La fièvre hémorragique à Ebola sévit depuis février dernier à Djera, dans la localité de Lokolia, en territoire de Boindé, et vous comprenez là que nous sommes dans la province de l'Équateur. Les agences des Nations Unies, des organisations humanitaires se sont mobilisées aux côtés du gouvernement pour soutenir le plan des contingences. D'abord, Claude, comment s'est fait la coordination du mécanisme des réponses mis en place par le gouvernement?
En fait, c'est le gouvernement qui chapeaute tout, c'est le gouvernement qui coordonne tout par l'entremise du ministère de la Santé. Cette coordination s'est réunie régulièrement afin de trouver des réponses idoines à cette épidémie. Et je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a fait de manière tout à fait satisfaisante et exceptionnelle, n'est-ce pas, cette coordination, et tout se passe très bien. Donc le PAM, évidemment, fait partie de parties prenantes de cette coordination et s'est réuni au même titre que les autres partenaires à toutes ces réunions de coordination que dirige le ministre de la Santé.
Alors, quel est à ce jour l'apport du PAM?
L'apport du PAM est multisectoriel. D'abord, le PAM, comme vous le savez, c'est une agence qui assiste la population en leur offrant une assistance alimentaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, un total d'environ 102 tonnes de vivres, ce qui représente environ 35% de l'ensemble de vivres que le PAM devait mettre à disposition de la population. Donc, 100 et des tonnes ont été livrées au point de distribution dans la zone de Boindé. Entre le 24 septembre et le 28 octobre, en dépit des difficultés de logistique, donc on a pu assister plus de 6000 personnes, plus de 6000 bénéficiaires sur les 23000 que nous sommes en train de chercher à assister.
Avec Ebola, les communautés de Djera, vous venez de le dire, et des environs ne peuvent plus cultiver leurs champs, vous comprenez. Il y a donc risque de pénurie de nourriture sur le marché et les personnes vulnérables en seraient vraiment affectées. Que peut alors faire le PAM pour soutenir cette catégorie de personnes?
Dans les 23 000 personnes ciblées par le PAM, les gens qui sont dans la zone de quarantaine, ceux qui ne peuvent pas cultiver leurs champs, sont pris en compte. Donc ce n'est pas une population qui est mise à part, c'est justement cette population qui est également ciblée par l'assistance alimentaire du PAM. Donc, ils sont à mesure de se prendre en charge pendant environ 3 mois. Il va falloir peut-être un jour, si l'épidémie s'éteint et que d'autres mécanismes, à travers d'autres partenaires humanitaires ou développement, puissent prendre des mesures qui permettent à la population, n'est-ce pas, de chercher à couvrir ces gaps qui s'est créé, n'est-ce pas, du fait de ne pas leur permettre de recourir à leur terre.
Et voilà. Comment, lorsque vous parlez de cette assistance humanitaire, et selon certaines sources, 300 patients hospitalisés devraient recevoir des repas chauds. Est-ce que vous confirmez cette information?
Absolument. Le PAM est là pour apporter cette alimentation à ces populations.
Et comment cela se passe concrètement sur le terrain?
Bon, sur le terrain, nous avons des partenaires, ce que nous appelons des partenaires de coopération. Le PAM livre des vivres à ses partenaires.
Quels sont ces partenaires?
Il y a deux partenaires, en fait, ce sont des ONG locales qui ont eu une expérience dans les distributions des vivres. Le PAM a pu recourir à ses partenaires. Ce sont ses partenaires, n'est-ce pas, qui distribuent. Tout cela sous la coordination du ministère de la Santé, en passant bien entendu par le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale.
Concrètement, il y a 300 malades d'Ebola. Comment la distribution se fait-elle? Parce qu'il y a un risque de contamination, je crois.
Bon, en fait, toutes les mesures liées à l'hygiène sont vraiment prises en compte. Tous ceux qui sont dans la distribution des vivres ont des mesures qu'ils doivent respecter pour ne pas être directement en contact, n'est-ce pas, avec les personnes malades. Comment on distribue? Les personnels de santé s'occupent du soin des malades. Tandis que le partenaire des coopérations, leur personnel s'occupe de la distribution, ils savent quelles sont les quantités exactes que l'on donne à un bénéficiaire.
Vous avez parlé de 100 tonnes livrées, n'est-ce pas?
Oui.
Mais cela suppose des moyens logistiques et bien sûr des moyens de transport. Comment le PAM s'y prend-il?
Je dois vous avouer que le problème logistique se pose avec acuité. Vous savez que le PAM dans l'ensemble a disponibilisé 287 tonnes pour distribution. Nous avons jusqu'à aujourd'hui livré le 102 tonnes suite aux difficultés de transport. Et les routes ne sont pas très bonnes, il va falloir utiliser des tracteurs pour le transport de ces vivres jusqu'aux différents points de distribution dans les zones. Et vous savez que les tracteurs n'ont pas de capacité pour transporter plusieurs tonnes. Ce qui fait que on utilise deux tracteurs, un troisième, donc pour essayer, n'est-ce pas, d'acheminer des vivres en petite quantité pourvu que la population puisse se retrouver. Donc c'est un problème logistique très très important et là les solutions sont en train d'être trouvées pour essayer d'aller plus rapidement, n'est-ce pas, pour distribuer des vivres à toutes ces personnes.
Et vous avez parlé tout à l'heure des tracteurs, à qui appartiennent-ils?
Donc ce sont des tracteurs que le PAM a pris en location, n'est-ce pas, dans le cadre de la réponse à cette épidémie.
Des difficultés sur le plan des transports, sur le plan de la logistique, et quelles sont d'autres difficultés auxquelles le PAM est confronté dans la distribution des vivres, par exemple, dans ces milieux frappés par Ebola?
Bon, les difficultés sont là, en fait, sont liées généralement à l'accès. En tout cas, tout est mis en œuvre, comme je viens de le dire, pour essayer, n'est-ce pas, de pouvoir apporter le nécessaire aux personnes. Nous faisons tout ce qui est possible pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à contourner tous ces différents obstacles.
100 et des tonnes, est-ce que c'est vraiment suffisant comme apport à ces nécessiteux?
En fait, le 100 et 2 tonnes, c'est ce qui est livré dans nos différents points de distribution.
Et vous allez continuer l'action?
Nous allons continuer parce que nous devons atteindre les 287 tonnes que nous avons avec l'argent que nous avons reçu des pool funds.
Claude Kalinga, est-ce que vous avez un dernier mot?
Nous avons aussi dans la partie logistique l'apport de UNAS, ce qui est le service aérien humanitaire des Nations Unies que gère le PAM. Donc depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui, il y a eu donc 18 vols qui ont été opérés pour aller dans les zones. Et avec 123 personnes passagers donc ont été transportés, plus environ 25 tonnes de cargo. Sans oublier évidemment qu'il y a aussi notre partenaire ACF de l'Aviation Sans Frontières France qui en a fait 26 vols jusqu'à aujourd'hui. Il y a la gestion des fuel.
Claude Kalinga, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Difficile cohabitation entre la réserve de Fona Okapi et la population de Mambasa à 200 km de Bunia en province orientale. À la base, la population accuse le gouvernement de protéger l'environnement au détriment de la survie des autochtones. Jean-Pierre Elali Koko aborde ce sujet avec Isaac Kremoyope. Suivez.
Isaac Kremoyope, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Elali Koko.
Merci d'être avec nous en direct à partir de Bunia. C'est pour parler de la cohabitation difficile entre la réserve des faunes Aokapi, RFO, et la population du territoire de Mambasa. C'est à 200 km au sud-ouest de Bunia. Alors Isaac, la pomme de discorde entre les deux parties, c'est quoi exactement?
Oui Jean-Pierre, la population accuse le gouvernement de protéger l'environnement au détriment des autochtones qui sont privés des moyens de survie, notamment la pêche, l'agriculture et l'exploitation artisanale des minerais dans cette aire protégée. Les habitants de Mambasa l'ont dit au cours d'une conférence débat organisée samedi dernier par la MONUSCO. La population déplore aussi l'absence de projets d'intérêt communautaire de la part de l'Institut congolais de conservation de la nature, ICSN. Il s'agit de la construction des écoles, des centres de santé et de l'appui aux associations des agriculteurs et aux femmes telles que prévues dans les cahiers des charges de cette organisation. D'autres autochtones ont accusé la RFO d'avoir étendu ses limites.
Quelle est la réaction des responsables de la RFO?
Le directeur de la RFO, M. Lucien Lokoumou, a déclaré que cette réserve regorge de nombreuses richesses qui doivent être protégées pour les générations futures. Il ajoute que plus de 54 000 habitants vivent dans la réserve et y exercent la pêche, l'élevage et la chasse selon les normes de la RFO. Il rejette les allégations sur l'expansion des limites de la RFO. Par ailleurs, il a dénoncé l'évasion de la réserve par les autochtones qui détruisent la faune et la flore. Signalons que plusieurs rencontres entre la population des Mambasa et la RFO pour une cohabitation pacifique ont toujours abouti à l'échec.
Oh, Isaac, on sait que la MONUSCO a organisé cette conférence débat. Quel rôle peut-elle jouer dans la recherche d'une cohabitation pacifique?
Selon le chef de bureau de la MONUSCO à Ituri, cette conférence devrait être assortie des recommandations que la MONUSCO va canaliser vers le gouvernement de la RDC pour une cohabitation pacifique entre la population locale et la RFO. Mahanda Ladjouzi a déclaré que l'objectif du dialogue entre les deux parties est de protéger ce patrimoine mondial pour l'intérêt de la population locale, de la RDC et de l'humanité.
Merci Isaac pour toutes ces précisions et bon dimanche à Bunia.
Merci Jean-Pierre Elali Ikoko.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Guillaume RTNC2 Développement. Y a-t-il des plans d'aide au PNUD pour venir au secours des nombreuses familles actuellement sans abri dans certains quartiers périphériques de Kinshasa suite aux inondations?
Suivez les réponses de Geneviève Delonoy, chargée de la communication au PNUD, et de Yvon Edoumou de Auch.
Nous n'avons pas de plan humanitaire concernant ces familles sinistrées par les inondations. Je vais me tourner vers mon collègue Yvon, s'il a peut-être des détails à ce sujet.
Certes, il pleut à Kinshasa. Kinshasa, mais nous n'avons pas eu écho de sinistre majeur qui nécessite une intervention dans le sens que nous le comprenons. Il faut bien savoir que ce n'est pas toutes les petites pluies ou tous les éboulements de terrain qui nécessitent forcément l'aide des ONG des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Julie Ngala Lumpungu et les intimes m'appellent Jungal pour la plupart des fois. Je suis célibataire, mère d'un enfant, une seule fille de 6 ans, elle s'appelle Sublime. Elle est en deuxième année primaire. Je suis diplômée d'État de l'option latin-philo, fait littéraire, option latin-philosophie. Je suis licenciée en animation culturelle et développement, mais en même temps, je suis graduée en communication, information et communication. Je disais tout à l'heure que je suis licenciée en animation culturelle et développement de l'Institut National des Arts, INA en sigle. Pour ce qui est du temps que j'ai passé à la MONUSCO, je suis arrivée à la radio Capi d'abord comme pigiste, exactement en septembre 2011. J'ai passé un temps de pige. Ce temps m'a pris une année, quatre mois. Mes piges s'étaient arrêtées, donc je suis restée à la maison pendant un temps. Et j'ai passé un moment à la maison, j'avais pas vraiment le courage d'aller chercher ailleurs, d'autant plus que j'avais de l'espoir et j'attendais qu'il y ait un poste à la MONUSCO pour que je puisse postuler. Et la Fondation Hirondelle, où je faisais mes piges, me disait « bon, il faut attendre, il y aura certainement un poste et on vous appellera pour ça ». Donc j'ai dû attendre pendant une année, huit mois. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai attendu en tout cas. Et pendant tout ce temps, il y avait des collègues qui m'appelaient, qui me disaient s'il y a un poste, qui me faisaient part de tout ce qui s'est passé à la MONUSCO. Et jusqu'à ce qu'une collègue, Céleste Poli, démissionne pour son mariage, elle est partie de la MONUSCO. J'ai dû postuler pour ce poste-là. L'on m'a rappelé pour un test écrit à UTEX 2. Quelques jours après, on m'appellera encore pour l'interview au quartier général cette fois-là. J'ai passé l'interview et on me rappellera pour me dire que j'avais réussi à ce test-là. Et ça fait seulement un mois depuis que j'aurais pris à la MONUSCO en tant qu'animatrice, productrice radiophonique. Présentement là, j'ai à ma charge des chroniques femmes d'aujourd'hui, la chronique recette. Quelquefois aussi, je fais des remplacements pour l'émission Découverte et pour Okapi Soir. Avant d'arriver à la MONUSCO, j'ai d'abord travaillé pendant quelques mois à la radio chrétienne Elikia. C'était en 1999, comme journaliste, comme animatrice. Et puis après, je travaillais à la chaîne de télévision CBS, Congo Education Broadcasting System, toujours en tant que journaliste animatrice, pendant une année seulement. Et puis je travaillais à la chaîne RTGA, radio-télévision du groupe L'Avenir. Là, je suis restée pendant 7 ans. Et c'est après RTGA que j'ai eu ces contrats de pige pour travailler à la radio Okapi. Et pendant mes temps libres, j'aime bien écouter la musique et suivre la télévision. Curieusement, je suis les dessins animés. Mais par rapport à mes préférences pour les sports, j'aime les football. Je soutiens l'équipe Barcelone et avec Messi comme joueur. J'aime beaucoup la musique de Koffi Olomide, mais également la musique du frère Mike Kalambay. Un morceau de Koffi Olomide. Sikoyo na yebi, sikoyo na yebi, mama. La vie n'a pas mobimba, atana komi boye, atana leli bolingoe, atana leli leli, mawa na ngaiko silate, mwana oyo. Donc c'est ça, je peux juste dire ça, bien que ces jours-ci, je préfère aussi les derniers albums de Fally Ipupa. Comme nourriture, j'aime bien manger le foufou, hein, le foufou comme une castaïenne, normalement. Je mange le foufou avec l'oseille de préférence et aussi avec le fretin. Ndakala, comme on appelle ça, et c'est vraiment ça, j'aime pas trop le riz. Comme projet après la MONUSCO, j'aimerais bien, tant que mes projets personnels ne seront pas encore prêts, j'aimerais bien poursuivre peut-être dans un autre organisme international, mais surtout comme perspective personnelle, j'ai des projets pour réaliser un magazine qui va concerner les femmes. Les noms, c'est Juste Debout, c'est un magazine que j'ai conçu depuis 2010. Donc je suis en train de poursuivre la conception jusqu'à ce que j'ai assez de moyens pour le faire et j'espère que ça ira. Je pourrai travailler pour mon propre compte. Voilà ce que je suis.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Si vous habitez à Lubumbashi, dans le Katanga, ces deux rendez-vous vous concernent. Le 10 et le 11 novembre 2014, l'UNESCO organise deux ateliers dans la capitale du cuivre sur les médias et le genre. Le premier atelier portera sur les égalités des genres dans les médias et le deuxième sur le rôle des journalistes face aux violences basées sur le genre. Et puis les 12 et 13 novembre prochains auront lieu à la Cour pénale internationale les déclarations finales dans le cadre du procès Jean-Pierre Bemba contre le procureur de la CPI. Prenez rendez-vous avec le magazine des Nations Unies la semaine prochaine pour être au fait de ces événements. C'est ici que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Julien Nyamouini était à la supervision. Jean-Pierre Lali Coco à la coordination et Honoré Missenga au reportage. Lydie Bettina vous l'a présenté et Willem Lungamba était à la mise en onde. L'émission est à réécouter sur notre site internet radiookapi.net. Merci de votre fidélité à la Radio de la Paix. Je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine. Au revoir.